Généralement, on voit qu'il y en a beaucoup qui prennent d'intérêt dans les jeux et les activités où il y a un peu d'excitation, et moins qui prennent d'intérêt dans les activités sérieuses, les exercices sérieux. Quelle est la raison?
Parce que dans l'immense majorité des cas, ce qui donne l'intérêt, c'est la satisfaction vitale. Pour s'intéresser aux exercices d'entraînement qui n'ont pas le stimulant des jeux, il faut que ce soit la raison qui gouverne l'être. La raison, c'est dans les cas ordinaires, d'une façon générale, c'est le sommet de la conscience humaine. Je dis le cas de l'humanité ordinaire, la raison c'est le sommet de la conscience humaine. Et c'est la partie de l'être qui doit gouverner le reste. Parce que c'est la partie ordonnée et raisonnable, c'est-à-dire qui fait les choses avec un sens d'ordre, de bien, d'utilité et selon un plan donné, reconnu, utilisé par chacun. Tandis que la partie vitale de l'être aime l'excitation, l'imprévu, l'aventure, tout ce qui donne l'attrait du jeu, surtout la compétition, n'est-ce pas, l'effort vers le succès, la victoire sur l'adversaire, toutes ces choses, n'est-ce pas. C'est l'impulsion vitale. Et le vital étant le siège de l'enthousiasme, de l'élan, de l'énergie ordinaire, quand cet attrait de l'imprévu, de la lutte et de la victoire n'est pas là, ça s'endort, à moins que ça n'ait l'habitude d'obéir d'une façon régulière et spontanée à la volonté de la raison. Et c'est même une des utilités premières de tout entraînement physique, c'est qu'on ne peut le faire vraiment bien que si le corps a l'habitude d'obéir à la raison plutôt qu'à l'impulsion vitale. Par exemple, tout le développement de la perfection corporelle, de la culture physique avec les haltères et ces exercices-là qui n'ont rien de particulièrement excitant en eux, bien, et qui comporte une discipline, des habitudes, qui doivent être régulière, raisonnable, qui ne laisse pas le champ à la passion, au désir, à l'impulsion. Il faut régler sa vie selon une discipline très sévère et très régulière. Eh bien, pour pouvoir le faire vraiment bien, il faut avoir l'habitude de gouverner sa vie avec la raison. Ce n'est pas très courant. Généralement, à moins qu'on ait pris soin qu'il en soit autrement, ce sont les impulsions des désirs, les enthousiasmes et toutes les passions, avec toutes leurs réactions, qui sont les maîtres de la vie. Il faut déjà être quelque chose comme un sage pour pouvoir faire une discipline rigoureuse de son corps et obtenir de lui l'effort ordonné et régulier qui peut le perfectionner. Il n'y a plus de place pour toutes les fantaisies des désirs. Dès qu'on se livre à des excès, à des intempérances quelconques et à une vie désordonnée, il est tout à fait impossible de maîtriser son corps et de le développer normalement. Sans compter naturellement qu'on abîme sa santé et que par conséquent, la partie la plus importante de l'idéal d'un corps parfait disparaît, parce qu'avec une mauvaise santé, une santé ébranlée, eh bien, on n'est pas bon à grand-chose. Et c'est certainement la satisfaction des désirs et des impulsions du vital ou des exigences déraisonnables de certaines ambitions que le corps souffre et tombe malade. Naturellement, il y a toute l'ignorance de ceux qui ne connaissent même pas les règles les plus élémentaires de la vie. Mais ça, tout le monde sait qu'il faut apprendre à vivre. Comme par exemple que le feu brûle et que l'on peut se noyer sous l'eau. Ça, on n'a pas besoin de le dire aux gens, c'est une chose qu'ils apprennent vite à mesure qu'ils grandissent. Mais le fait que le contrôle de la raison sur la vie est absolument indispensable pour se bien porter n'est pas toujours admis par une humanité inférieure qui n'a de goût à la vie que si c'est pour vivre ses passions. Je me souviens d'un homme qui était venu ici il y a fort longtemps pour se présenter comme pour la députation à l'élection. Bon, députation. Il se trouvait qu'on me l'a présenté parce que on voulait avoir mon opinion sur lui. Et alors il m'a posé des questions sur l'ashram et la vie qu'on y menait. Et sur ce que je concevais comme une discipline indispensable de la vie. C'était un homme qui fumait toute la journée et qui buvait beaucoup plus qu'il n'était nécessaire. Alors, il se plaignait, n'est-ce pas, qu'il avait des fatigues et que parfois il ne pouvait pas se maîtriser. Alors, je lui ai dit, vous savez, d'abord, il faut cesser de fumer et puis il faut cesser de boire. Alors cet homme m'a regardé avec un ahurissement incroyable. Il m'a dit, mais alors, si on ne fume pas et si on ne boit pas, c'est pas la peine de vivre. Si vous en êtes encore là, c'est plus la peine de parler de rien. Et c'est, n'est-ce pas, c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne croit. Ça nous paraît à nous absurde parce que nous avons quelque chose d'autre qui est évidemment plus intéressant que de fumer et de boire. Mais pour l'humanité ordinaire, de satisfaire ses désirs, c'est la raison d'être. Ça leur paraît être l'affirmation de leur indépendance et de leur raison d'être. Et c'est simplement une déviation, une déformation qui est une négation de l'instinct de vie. C'est une intervention malsaine de la pensée et de l'impulsion vitale dans la vie physique. C'est une impulsion malsaine qui n'existe pas généralement, même chez les animaux. Dans ce cas-là, leur instinct est infiniment plus raisonnable que l'instinct humain qui n'existe plus d'ailleurs, qui est remplacé par une impulsion très perverti. La perversion est une maladie de l'homme qui n'existe que très rarement chez les animaux et seulement chez les animaux qui ont approché l'homme et qui par conséquent ont été contaminés par la perversion de l'homme. On racontait une histoire d'officiers qui étaient en Afrique du Nord, en Algérie, et qui avaient adopté un singe. Le singe vivait avec eux. Et un jour, à leur dîner, il y en a eu qui avait une idée grotesque, n'est-ce pas? Et qui ont donné à boire au singe. On lui a donné à boire de l'alcool. Le singe, d'abord il voyait les autres boire, et puis lui-même, ça lui a paru quelque chose d'assez intéressant. Et il a bu un verre de vin tout entier. Après, il a été malade, aussi malade qu'on peut être. Il a roulé sous la table avec toutes sortes de douleurs. Et il était très, vraiment très malade. C'est-à-dire qu'il a donné l'exemple aux hommes de l'effet spontané de l'alcool quand on n'a pas déjà perverti sa nature physique. Il a failli mourir, empoisonné. Il a guéri. Et après quelque temps, on l'a admis de nouveau à la table du dîner parce qu'il était guéri. Et il y a quelqu'un qui a mis devant lui un verre de vin. Il l'a pris avec une rage épouvantable et il l'a jeté à la tête de celui qui lui donnait. En ça, il a montré qu'il était beaucoup plus sage que les hommes. C'est assez bon de commencer jeune à apprendre que pour mener une vie efficace et pour obtenir de son corps le maximum de ce qu'il peut donner, il faut que le maître de la maison soit la raison. Et ceci, ce n'est pas une question ni de yoga, ni de réalisation supérieure. C'est quelque chose qui devrait être enseigné partout, dans toutes les écoles, toutes les familles, dans toutes les maisons, que l'homme est fait pour être un être mental, et que pour être seulement un homme, nous ne parlons pas d'autre chose, nous parlons seulement être un homme, Il faut que la vie soit dominée par la raison et pas par les impulsions vitales. Ça, depuis tout petit, on devrait l'enseigner à tous les enfants. Si on n'est pas un être dominé par la raison, on est une brute inférieure à l'animal. Parce que les animaux n'ont pas de mental ni de raison pour les dominer, mais ils obéissent à l'instinct de l'espèce. Il y a un instinct de l'espèce qui est un instinct extrêmement raisonnable et qui règle toutes leurs activités pour leur bien. Et automatiquement, sans le savoir, ils sont soumis à cet instinct de l'espèce qui est tout à fait raisonnable au point de vue de cette espèce, de chaque espèce. Et ceux qui, pour une raison quelconque, sont libérés, je disais tout à l'heure, ceux qui vivent près de l'homme et commencent à obéir à l'homme au lieu d'obéir à l'instinct de l'espèce, ce sont ceux-là qui sont pervertis et qui perdent les qualités de leur espèce. Mais un être animal laissé dans sa vie naturelle et libre de l'influence humaine est un être extrêmement raisonnable à son point de vue propre. Parce qu'il ne fait que les choses qui sont conformes à sa nature et pour son bien. Naturellement, il lui arrive des malheurs parce qu'il est en lutte avec toutes les autres espèces, mais pour lui-même, il ne fait pas de folie. Les folies et la perversion, ça commence avec la mentalité consciente et l'espèce humaine. C'est le mauvais usage que l'homme fait de sa capacité mentale. La perversion commence avec l'humanité. C'est la déformation de ce progrès de la nature qui est la conscience mentale. Et par conséquent, la première chose qu'il faudrait apprendre à tout être humain, dès qu'il est capable de penser, c'est qu'il doit obéir à la raison qui est un super instinct de l'espèce. La raison est le maître de la nature de l'espèce humaine. Et il faut obéir à la raison et se refuser absolument à être l'esclave des instincts. Et ça, ce n'est pas, je ne vous parle pas de yoga, je ne vous parle pas de vie spirituelle, ça n'a rien à faire avec ça. C'est l'élémentaire sagesse de la vie humaine, purement humaine. Tout être humain qui obéit à quelque chose d'autre que la raison est une espèce de brute inférieure à l'animal. Et ça, il faudrait qu'on l'enseigne partout. C'est ça l'éducation élémentaire qu'on doit donner aux enfants.